Interview.
Bonjour, ici R. Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Christelle Avrin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christelle, vous êtes ici pour nous annoncer un moment de spectacle que vous proposerez donc le 23 avril à Habiter pour commencer à 20h. Et donc il s'agit d'un spectacle qui s'intitule « Métamorphose, du burn-out à la rencontre de soi ». Et pour cela, vous serez accompagné de Léo Lebrun, qui sera musicien et qui interprétera guitare et contrebasse. Alors avant tout, ce désir de partager et d'aller vers les autres, c'est aussi cette démarche de ce spectacle.
Tout à fait. C'est, pour la petite histoire, c'est quand je me suis effondrée au moment du burn-out, eh bien, je me suis dit « j'en ferai quelque chose tellement c'est fort ». Et quelques années plus tard, j'ai eu l'idée d'en écrire un texte que j'avais envie de partager avec un public pour transmettre l'expérience.
Alors, on peut peut-être parler un peu de ce burn-out. Comment s'est-il décelé? Ou est-ce que vous pressentiez son arrivée?
Pas du tout. En fait, c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre le spectacle, parce qu'il y a vraiment le déni qui retarde le diagnostic. Et moi, la première, j'étais infirmière, j'aurais pu voir les signes sur moi et je ne les ai pas vus. Et c'est une fois que mon médecin traitant m'a dit « non mais là, je t'arrête », que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et c'est là que j'ai tout lâché et que je me suis retrouvée écroulée, quoi.
Et vous aviez justement ce pressentiment, puisque vous vous adressiez à un médecin?
Oui, alors j'avais pas de pressentiment, c'est juste que quand même je n'arrivais plus à bouger. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose qui va pas. Mais non, il n'y avait pas de pressentiment. C'est vraiment venu me confronter de manière violente au dernier moment. Il était temps.
Alors comment s'est produite cette résilience de cette situation donc de burn-out à cette conception de ce spectacle?
Eh bien, c'est vrai que le mot résilience me parle bien, dans le sens où ce burn-out est comme un tremplin. Alors, c'est pas tout de suite que je l'ai vu, mais je me suis dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose de fort. J'écoute, je m'abandonne à ce qui se passe presque. Et comme de toute façon, je ne pouvais rien faire d'autre. Et j'ai vu que petit à petit, ça, c'était comme un tremplin, ça m'a amené à une autre vision de la vie, même à une autre manière de vivre. Et puis, ben, c'est vrai que l'écriture est venue assez facilement, notamment grâce à Gis, qui m'a aidée à coucher les premiers mots, à accoucher même les premiers mots. Et après, je voyais toute la mise en scène, je voyais ce que j'avais envie de raconter.
Vous parliez de Gis qui vous a mis le pied à l'étrier, en quelque sorte, mais est-ce que... c'est une situation que je ne connais pas, mais vous parliez de ne plus bouger autant en temps physique que psychique.
C'est ça, oui. Alors, c'était, je ne dirais pas un brouillard, mais c'est comme si tout était à l'intérieur de moi, mais je n'arrivais pas à... c'est vrai que c'était, et physiquement et psychologiquement, capacité était vraiment très diminuée. Et là, je sentais les mots à l'intérieur, je sentais ce que j'avais envie de raconter, mais du coup, elle m'a aidée aussi à les poser et être tranquille aussi à les poser. Parce que je faisais aussi un gros travail de mémoire que j'avais perdu, un gros travail de reconnaissance de ce que j'avais vécu. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, les récits sont guérisseurs. Et ça a été le cas, ça m'a aidé vraiment à me remettre sur pied, quoi.
Dans cette situation de burn-out, il y a donc ce contact avec un médecin qui vous a en quelque sorte ouvert les yeux, je dirais. Est-ce qu'il y a eu une étape transitoire avant de vous exprimer, d'aller vers cette création?
Je ne crois pas qu'il y ait eu d'étape transitoire.
Mais ce que je voulais savoir, c'était cette situation du burn-out résulte d'un quotidien intense, certainement, dénué de repos parfois.
Alors, non, je ne l'associe pas du tout à ça. Pour moi, c'est déjà une conséquence. Quand on est avec une surcharge, alors on peut dire professionnelle, mais ça peut être dans plein de domaines, c'est déjà une conséquence de il y a quelque chose qui ne va pas bien et on le cache, entre guillemets, hein, on fait ce qu'on peut, par une surproduction d'activité. Et ça, c'est déjà la conséquence, c'est qu'avant, il y avait d'autres choses. En l'occurrence, pour moi, c'était des conditions de travail où je ne pouvais pas réaliser mon travail dans les meilleures conditions possibles en tant qu'infirmière. On ne me donnait pas les moyens. Et du coup, ça, c'était... du coup, ça me mettait en surstimulation à me dire « mais si, je vais y arriver, si, je vais y arriver » et du coup, à me dépasser qu'en fait, ce n'était pas de ma faute, mais c'était l'extérieur qui n'apportait pas les moyens pour réaliser un travail satisfaisant.
Et justement, cette arrivée ressentie hein, de ce burn-out, est-ce que autour de vous ou même au niveau professionnel, il y avait quand même des perceptions émises ou partagées sur votre situation?
Ben non, ça, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Il n'y a pas eu de retour. Mais parce que moi, la première, je ne voyais pas, donc les autres ne s'apercevaient pas non plus.
Quoi. Vous, étant dans le déni, effectivement, on ne peut pas percevoir cette perspective à venir. Justement, par rapport à cette situation de burn-out, est-ce que vous étant dans le déni, vous ne pouviez pas laisser percevoir aux autres la difficulté qui vous envahissait, en somme?
Ben, déjà, c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, c'est difficile d'afficher qu'on peut être en difficulté, on est là pour aider les autres. Et j'ai pas... Ça s'est trouvé que j'ai pas eu de retour, en tout cas, ouais.
Et donc, il y a ce médecin qui vous voit, qui vous... vous étiez certainement à plat, en quelque sorte. Et c'était une demande... Quelle demande précisément auprès du médecin vous avez faite?
Ah, j'ai pas fait de demande, non. Ça se voyait.
Ça se voyait,
j'étais
d'accord.
Tellement, je pouvais pas tenir debout. Donc c'est elle qui m'a dit, bah, stop là, je t'arrête. Et j'avais jamais été arrêtée de ma vie, quoi. Donc ça fait tout drôle, du coup, de s'arrêter. Ouais.
Effectivement, cette situation fait en sorte que la personne ne se rend pas compte hein, de ce problème. Donc il y a eu ce médecin qui vous a interpellé sur cette situation. Et après, donc, il y a certainement un moment de convalescence, de remise sur pied. Est-ce qu'il y a, justement, quels sont les moyens qui sont accessibles à une personne pour se remettre dans le circuit, en quelque sorte?
C'est des moyens très simples. Déjà, c'est vrai que c'est beaucoup de repos. Et surtout... de pas se remettre en cause, parce que souvent on a tendance à se dire mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait, et justement c'est qu'est-ce qu'on ne m'a pas donné les moyens de bien faire, de bien réaliser, notamment dans le travail. Et ça, c'est vraiment important pour les personnes qui sont dans cette phase-là de plein burn-out, et de pas non plus se remettre en cause complètement, parce que c'est pas que de leur ressort, en fait, cet état-là.
Vous parliez de Gis, hein, qui vous a aidé aussi à remonter. D'autres personnes aussi ont été à votre rencontre pour essayer de vous remédier à cette situation.
Il y avait mes filles pour qui qui me donnaient de l'énergie pour retrouver mon état, entre guillemets, normal. Et puis les amis autour de moi, et puis la nature qui a beaucoup fait de bien, beaucoup. Parce que c'est à ce moment-là que je suis arrivée aussi dans la Drôme.
Et donc, il y a ce mot métamorphose, hein, c'est cette transition de l'état larvaire à la nymphe, et aussi à ce papillon, hein, on peut dire... Mais je ne sais pas si on peut parler de métamorphose pour d'autres espèces animales. En tout cas... ce mot vous semblait vraiment judicieux.
Ah oui, il s'est imposé. Parce que je me suis aperçue, quand j'ai choisi ce titre-là, que la métamorphose du papillon, c'est vraiment... Il disparaît, il se... Comment dire, il se... comment c'est le mot ? Il se...
La chrysalide ?
Oui, mais il se... pas disséqué, mais il se...
Il se dissout ?
Voilà. Et en fait, oui, ce titre-là m'est venu vraiment de manière essentielle, quelque chose de... qui s'est imposé, parce que la larve se dissout complètement pour renaître, se reconstruire. Et c'est vraiment ça que j'ai pu sentir, comme s'il y avait des anciens schémas, des anciennes... plein de choses qui devaient disparaître pour reconstruire une base, une autre base.
Ce mot, la métamorphose, comment vous est-il venu à l'esprit pour justement parler de votre aventure, en quelque sorte ?
Ben, je ne sais plus comment il m'est venu. J'avais quelques titres, quelques mots, mais ce n'était pas assez fort. Je cherchais vraiment quelque chose qui redonne toute la profondeur, toute la globalité aussi de ce passage, parce que c'est un passage physique, un passage psychologique, émotionnel, spirituel. Et du coup, métamorphose, pour moi, donnait vraiment le sens global et la profondeur de cette traversée.
Et ce titre, La Métamorphose, m'évoque le livre de Franz Kafka, La Métamorphose. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Non,
bon, ça n'a rien à voir, mais c'est cette situation de Victor Somsa, je crois. C'est le héros qui se réveille un matin, transformé en bête, sur son lit. Et donc, petit à petit, cette histoire narre sa déchéance au point de vue professionnel, familial. Mais en parallèle de ça, il y a sa sœur, adolescente au début de l'histoire, et qui se métamorphose à la fin, en femme, à la fin de ce récit. Donc la métamorphose, c'est le faux prétexte hein, de ce Victor Somsa. C'est plutôt celle de sa sœur qui devient, dans la naïveté, la pureté, à peut-être quelque chose de plus engagé et moins transigeant.
Ça pourrait ressembler à ça. Ouais.
Et donc, cette métamorphose, comment s'est-elle opérée dans la durée aussi ? Est-ce qu'il y a des étapes pour cela ?
Ben oui, il y a plusieurs étapes. Déjà de reconnaître que je ne vais pas bien. Et ensuite d'accepter de se reposer, d'accepter de lâcher ce qui nous paraissait important. Le métier d'infirmière, moi, c'était toute ma vie. Donc, c'était d'accepter d'être en arrêt, en tout cas au début, et après d'arrêter ma profession. Les étapes, c'est aussi retrouver de la force physique, retrouver de la mémoire, retrouver une capacité à aller vers l'extérieur. Et tout ça, ça se fait sur de longs mois, voire plusieurs années. Hein, il y a plusieurs niveaux de vécu. Mais en tout cas, pour moi, ça s'est fait sur au moins 2 ans.
Alors, il y a ce processus hein, de résilience, je reviens sur ce terme, avec cette métamorphose. Comment s'est établie cette base de ce spectacle ? Est-ce que vous avez rédigé un texte ?
J'ai vraiment cherché le plus précis possible de ce que j'ai pu vivre. Je me suis mise vraiment à nu dans ma vulnérabilité. Parce que j'avais le souhait de transmettre. En fait, j'ai l'impression de faire toujours un peu le même métier. Hein. Je transmets au niveau de la santé, parce que c'est quelque chose qui est pour moi vraiment important. Et du coup, je me suis dit, j'ai vécu quelque chose de fort. Et je m'appuie sur cette expérience pour la transmettre dans quelque chose de concret et qui peut être soutenant, qui peut informer pour l'entourage, pour aider à comprendre, et puis surtout qui est positif. Ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Ce burn-out a été vécu comme un tremplin vers du beau, vers du bon. La beauté et la joie d'être en vie.
On passe du burn-out à la naissance de soi, à la rencontre de soi. Donc ça, c'est le sous-titre de ce spectacle. Alors comment ça perd cette rencontre avec soi-même ?
Ah, bonne question. Bah déjà, elle peut s'opérer parce que j'ai laissé de l'espace. J'ai accepté d'arrêter de faire. Et du coup, il y avait beaucoup de temps vide, entre guillemets. Je n'étais pas occupée à travailler, je ne pouvais pas m'occuper de mes filles. Donc, et c'était bah, du coup passé par des moments de rencontre. Mais au fait, qui je suis alors quand je ne travaille pas? Qui je suis quand je ne suis pas maman? Qui je suis quand je ne suis pas avec d'autres? Et petit à petit, d'aller écouter ces parts-là, d'aller écouter à l'intérieur et de me découvrir.
Il y a aussi cette situation où, au départ, on se sent plutôt seul. Et puis, petit à petit, un entourage arrive. Et cela permet peut-être de plus s'appuyer, justement, pour repartir. Ce processus, vous disiez, a duré à peu près 2 ans. Et est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été importantes? Ou alors, ce désir de partager par ce spectacle répond aussi peut-être à une carence dans cette situation? Est-ce que vous n'avez pas trouvé de texte ou de livre relatant cette situation?
Bah, déjà, d'une part, j'étais incapable de lire. Mais c'est vrai que je suis plutôt assez autodidacte. Donc, et comme j'ai une formation de sophrologue, bah, je me suis appuyée dessus pour retrouver des ressources. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que l'entourage ne comprenait pas du tout ce qui se passait pour moi. Et je n'arrivais pas à leur expliquer parce que je n'arrivais pas à sortir 3 mots. Donc, c'est tout l'intérêt de ce spectacle où le public peut comprendre ce qui se passe pour une personne qui est concernée autour d'eux et comprendre et mieux accueillir, mieux soutenir. Parce qu'il y a un peu plus de connaissances des différentes phases et de ce que l'on peut vivre.
Donc ce spectacle métamorphose, en quelque sorte un journal peut-être de cette période d'existence. Et il y a aussi cet aspect musical, hein, cet accompagnement qui est ponctué par Léo Lebrun. Et quel est l'apport de la musique dans ce moment?
En tout cas, c'était mon rêve, parce que ce spectacle, j'ai déjà joué il y a 7 ans, et c'était un peu comme un cri, et voilà, j'avais besoin de l'exprimer. Et là, j'ai eu envie de le reprendre, et de le reprendre avec vraiment, en y apportant encore plus de beauté. Et je me suis dit, pour moi, la beauté, ça passe par la musique. Et du coup, Léo, en tout cas les instruments, guitare et contrebasse, apportent une note chaleureuse, soutenante au propos. Il y a comme un écho avec la musique à ce que je raconte.
Une musique qui se calque bien avec... cette histoire?
C'est des morceaux qu'on a choisis avec la metteuse en scène, Corinne Lèbre, et qu'on a choisis justement avec des notes d'espoir, des notes de pétillance, parce que quand on voit Burnout, on se dit « Oh là là, ça va être trop lourd !» Et moi, c'est pas ça que j'ai envie d'insister. Je parle des signes, mais surtout, j'ai à cœur de transmettre ce qui peut en ressortir, toute l'énergie qui peut en découler ensuite.
Il y a aussi ce courage de se confronter face à un public pour parler de soi, d'une expérience. Avec le soutien donc de cette metteur en scène Corinne Lèbre, peut-on en parler un peu?
De Corinne?
Oui.
Oui. Corinne, c'est vrai que toute l'année dernière, je me disais, mais il me faut quelqu'un qui m'aide à avoir un regard extérieur, qui m'aide à avoir une approche professionnelle. Et du coup, c'est une amie qui m'a transmis le nom de Corinne, qui a été longtemps dans la mise en scène, mais qui a arrêté et qui a bien voulu reprendre exceptionnellement pour mon projet, qui lui parlait. Et du coup, elle m'a transmis quelques expériences de comédienne pour aussi avoir un exercice, qui tienne la route sur scène.
Il y a une part d'improvisation en même temps, puisque vous vous appuyez sur votre propre expérience pour vous exprimer, ou alors vous avez un texte à laquelle vous vous tenez?
Oui, bah, il y a le texte qui est vraiment important, parce que ce sont des mots choisis, des temps choisis, qui décrivent très précisément. Et puis, pourquoi pas l'improvisation, mais c'est pas l'intention, en tout cas, première.
Il y a des situations humoristiques aussi?
Oui. Puis moi, mon caractère, c'est de toujours m'émerveiller, de voir comment je peux transformer ce qui pourrait être difficile, comment le transformer, comment rebondir avec ça, comment en faire mon miel. Et oui, c'est plutôt tourné dans cette manière-là.
Ce burn-out, je ne sais pas trop comment le définir médicalement. Puisque c'est un terme pas très ancien.
Ça date des années 60.
Oui.
Et ça a été étudié auprès du public des soignants, justement, qui déjà étaient beaucoup touchés. Et un petit exemple qui est très concret, parce que souvent on me dit « Ah, c'est de la dépression ». Alors, on peut être dépressif pendant un burn-out, mais ce n'est pas le même processus de démarrage. Quand on est dépressif, c'est plutôt... Alors, on peut imaginer une maison. Et quand il y a des termites dans la maison et qui font que les termites ont tout ravagé, la maison s'écroule, ça c'est plutôt la dépression. C'est un contexte intérieur. Et le burn-out, c'est il y a de la neige sur le toit et tellement un poids important que la maison s'écroule. Ça c'est le processus du burn-out, où ce sont des impacts extérieurs qui fait qu'on n'a pas les moyens en tant qu'être humain de faire front et qui font qu'on s'écroule.
Ce burn-out vous a peut-être aussi permis de changer votre existence? Est-ce que vous avez cessé cette activité d'infirmière?
Ben oui, ça a tout changé. Déjà, j'ai emménagé ici parce que j'avais besoin d'être dans la nature. J'ai fait le choix d'arrêter mon métier d'infirmière. J'aurais pu le reprendre à un moment et non, c'était pas du tout... Je suis toujours intéressée par le domaine de la santé, mais de plein d'autres manières, dont ce spectacle. Et oui, il a changé dans ma manière d'appréhender les événements et de voir que la vie, elle est bien plus grande que moi et qu'elle a des projets, des fois, qui surprenants. Mais comme là, avant, je disais, le burn-out, c'est un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau.
Sophrologue, c'est un peu une conséquence de cette situation?
Ah non, pas du tout.
Non.
On aurait pu croire que ça m'aurait aidé, mais non, ça fait 20 ans que je suis formée à la sophrologie et ça m'a beaucoup aidé dans la reconstruction, mais pas dans les moyens de le prévenir, parce que c'était ainsi. Mais au moins, ça m'a aidé dans la reconstruction.
À vous entendre, je pense que le mot, la langue, est peut-être cet outil qui permet de guérir.
En tout cas, c'est ce qui m'anime. C'est important pour moi de poser des mots exacts, clairs, simples sur ce qui m'arrive et que souvent ça délie, ça amène beaucoup de réconfort aussi pour l'extérieur.
Et l'important aussi d'être entendu, d'être écouté.
D'être entendu, déjà je me suis entendue moi, et du coup ça a permis, ça peut aussi faciliter que les autres aussi entendent, oui, et reconnaissent, parce que c'est vrai que quand ça m'est arrivé, il y a 10 ans, c'était pas encore reconnu, là il y a un peu plus de reconnaissance, ne serait-ce que par les médecins de cette maladie.
Et donc, c'est un spectacle qui dure 40 minutes environ.
À peu près, oui.
Donc, entre texte, morceaux de musique, peut-être du chant aussi?
Peut-être.
Vous vous êtes initiée à cet art du spectacle, donc...
Oui, Corinne m'a initiée et elle me dit que je suis une bonne élève, donc j'espère être à la hauteur.
Je me souviens de vous et avec une autre personne, vous proposiez une série d'émissions sur RDW.
Oui.
Est-ce que ça aussi, ça a été une étape importante pour vous reconstruire en quelque sorte?
J'étais déjà reconstruite, mais en tout cas, ça, c'est vraiment encore des étapes où on aime à transmettre, avec cette amie Laetitia, oui, on a aimé à transmettre la joie, la profondeur de la vie. Et oui, ça fait partie des éléments qui m'animent de transmission.
On peut rappeler le titre de cette émission ?
Un diamant dans mon cœur, je crois.
C'est pour les auditeurs, hein, s'ils oui. veulent écouter le podcast. J'imagine qu'il existe toujours sur notre site. Il y a plusieurs rendez-vous, le premier étant celui du 23 avril, donc à Habitat, hein, au 1120 Chemin des Combes. Ça sera à 10 et c'est à partir de 20h. D'autres dates sont aussi à prévoir.
Oui, le spectacle va commencer à l'heure. Et d'autres dates, donc il y a le col de la Chaudière chez des amis le 18 avril à 19h avec un repas partagé et un bœuf musical ensuite. Donc 18 avril, 23 avril donc à Habitat à 10, le dimanche 26 avril à Cré, au Colibri à 20h. Et ensuite, ça sera chez l'habitante, une femme que j'ai rencontrée qui avait envie d'ouvrir sa maison, et à Beaufort-sur-Gervanne, à 19h. Et vaut mieux, du coup, après prendre plus de renseignements.
Pour connaître les lieux, justement, voilà. Il est prié de vous appeler, peut-être, oui. pour avoir ses coordonnées.
C'est ça.
On peut peut-être indiquer un numéro de téléphone.
Au 06 14 94 37 28, par téléphone ou par SMS.
Très bien. Nous avons l'émission qui se termine avec des propositions émanant de vous, celle de Michel Fugain. Alors pour vous, c'est aussi cette musique, on se souvient dans les années 70, ça mettait du baume au cœur, c'était plutôt joyeux, c'est un peu ce souvenir aussi.
C'est exactement ce que j'avais envie, du baume au cœur, se faire du bien et quand on est détendu, on est plus facilement joyeux.
Alors il y a de la joie ou...
Michel Fugain.
Oui, il y a de la joie.
Oui, il y a de la joie.
Il y a de la joie. Chante la vie, chante. Voilà. Christelle Avrin, merci beaucoup en tout cas d'être venue sur Erdivois. Est-ce que vous opérez au-delà de ce spectacle, en quelque sorte un blog ou un moyen de connaître votre expérience à partager ?
C'est en construction pour le moment. Mais en tout cas, c'est un spectacle qui va être amené à bouger, à rencontrer le public qu'il souhaite. Je cherche, en tout cas dans les structures qui seraient intéressées pour parler de la santé et amener cette information à un public vraiment général. Tout est bienvenu pour transmettre.
Juste l'affiche est de qui ?
Ah, c'est une co-création. Anouk a fait le dessin sur des indications que je lui avais transmises. Donc Anouk qui travaille à la Carline. Et puis Juliette qui donne des cours de yoga, qui est aussi m'a offert cette belle création graphique.
Ce texte qui est la base de ce spectacle, quelle destination lui donnerez-vous au-delà de cette représentation ?
Quelle destination ?
Est-ce que vous souhaitez le partager en étant imprimé, par exemple ?
C'est une suggestion qui parfois me caresse l'esprit. Je me dis, mais pourquoi pas l'écrire ça serait plutôt sous forme de BD ou en tout cas quelque chose de vivant. Et c'est vrai que je me dis que ça serait chouette d'avoir un support aussi. Avis aux professionnels.
Christelle Avrin, merci beaucoup en tout cas d'être venue sur Erdivois. Et nous nous quittons avec Michel Fugain, avec cette chanson.
Chante, la vie chante. Merci.
Bonne soirée.
c'est ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux, et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille. Sur tes vacances.